Question d'islam par Ghalib Bunshir. Aujourd'hui, nous parlons de l'islam africain, l'islam d'Afrique, l'islam subsaharien, l'islam au Sahel, mais au-delà, c'est dans tout le continent africain, avec le professeur Frédéric Treffel. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, professeur. Vous êtes professeur associé en philosophie et en sciences politiques à l'Université Paris-Seine et vous êtes professeur invité à l'Université Cheikh Anta Diop à Dakar, au Sénégal. Et vous êtes un fin connaisseur de ce continent et aussi de l'islam dit africain. Maintenant, vous m'aviez dit, tout en préparant cette émission, qu'on préfère parler d'un islam ouvert ou un islam d'ouverture africain. Qu'est-ce qui motive cette épithète accolée maintenant à l'islam, l'islam ouvert en Afrique?
Oui, c'est certainement des raisons conjoncturelles et le contexte géopolitique que nous connaissons qui est fait de terrorisme. Donc, le Sénégal, que je connais particulièrement, est un des rares, pour ne pas dire le seul des pays africains, à ne pas avoir été touché par ce fléau. Ce qui explique qu'il s'efforce de promouvoir un islam d'ouverture, montrant qu'il ne se cantonne pas à une conception rigoriste, étroite, du Coran et de l'islam, caractérisée par le djihad. Je rappellerai simplement que Dakar, depuis le début des années 2000, accueille de nombreux forums sur la paix et la sécurité en Afrique et qu'il a été chargé par les autorités d'organiser tous les ans le Forum international pour la paix et la sécurité en Afrique qui a été décidé lors du dernier sommet de l'Élysée Afrique-France qui s'était tenu à Paris en 2013. Donc c'est une volonté à la fois de singularité, de respecter ce qui fait l'originalité, la singularité, la particularité du Sénégal qui, vous le savez, est caractérisé par les notions de tolérance, d'hospitalité, d'harmonie et de vivre ensemble.
D'accueil et de générosité. C'est vrai, c'est une spécificité, à juste raison, du Sénégal. Hélas, à côté, ce n'est peut-être pas le cas et sûrement pas le cas dans d'autres contrées. Vous avez une explication, serait-elle conjoncturelle ou structurelle? Qu'est-ce qui se passe maintenant dans le Sahel, au Mali, où des groupes terroristes écument les contrées? Dans le nord Nigeria, il y a la secte Boko Haram. Étonnamment, beaucoup de book en anglais, le livre serait interdit. C'est un non-sens total.
Absolument. Alors, ce qui fait la spécificité et l'originalité de l'islam au Sénégal, c'est ce qu'on appelle le système des confréries. Hein. Le système des confréries qui vise à établir un juste milieu entre les préoccupations spirituelles et les préoccupations temporelles, qui joue un rôle d'intermédiaire, d'intercesseur, même si cela n'est pas toujours compris, entre la révélation divine et la population. Ce qui fait l'originalité de cet islam, alors que dans l'islam traditionnel, le lien est direct entre les croyants et Dieu, à travers le système des confréries, il existe un système de califat, il existe un système de représentation, il existe un système de médiation permettant aux individus de se retrouver en communauté et de répondre et de rechercher ensemble des solutions à leurs préoccupations à la fois spirituelles et matériel. Ce qui caractérise les confréries, c'est non seulement la prière, mais aussi le travail. Ce qui caractérise les confréries, c'est aussi toute la culture sénégalaise caractérisée par le respect des ancêtres, le respect de la famille, le respect du lignage, le respect de la communauté. Donc c'est un système très très particulier et qui assure ce rôle de tampon hein, qui permet d'éviter des dérives, qu'elles soient sectaires, qu'elles soient fondamentalistes ou autres.
C'est vrai, au niveau des confréries, et notamment au Sénégal, et j'ai cru comprendre qu'avec la confrérie des Mourides, il y a un triptyque incontournable. la prière, l'élévation spirituelle, le travail comme acte d'adoration, et surtout le troisième point est être au service d'autrui, au service de l'humanité.
Oh. C'est tout à fait ça. C'est à la fois la tête, la prière, c'est à la fois le ventre, le travail, et c'est à la fois le courage, la nécessité de prendre en charge des responsabilités d'intérêt général, des responsabilités de citoyenneté et des responsabilités d'ouverture sur l'autre. Hein, l'hospitalité, la teranga, comme on appelle ça.
L'accueil, la générosité.
L'accueil et la générosité.
Alors, est-ce que cela relève d'une tradition proprement africaine multiséculaire, indépendamment de la tradition religieuse islamique, ou est-ce que tout cela a été matiné et est revenu au devant de la scène, même à travers l'histoire, avec l'islamisation de ces contrées?
C'est tout à fait ça. On peut dire que nous avons connu au cours des siècles un double mouvement. À la fois un mouvement d'islamisation de l'Afrique et puis un mouvement d'africanisation de l'islam. L'islamisation de l'Afrique remonte au XIe siècle, hein, avec les commerçants venus de Mauritanie, venus d'Afrique du Nord, hein, qui ont importé la religion de l'islam en Afrique sahélienne, en Afrique subsaharienne. Ça, c'est le premier moment. Le deuxième moment, là, c'était, si je peux dire, une islamisation pacifique. Hein. Le deuxième moment s'est fait à partir des grands empires, hein, à partir du VIIe siècle, l'empire du Mali jusqu'au XIXe siècle, qui ont introduit le djihad et là qui ont conquis ces contrées à travers le djihad, à travers la guerre. Donc c'est un mouvement là beaucoup plus guerrier et beaucoup plus belliqueux que celui qui avait été connu précédemment. Et au XVIIIe siècle, les différents empires ont connu l'échec du djihad, d'où la naissance des confréries. Les confréries sont nées pour s'efforcer d'établir une politique de coopération avec ceux qu'on appliquait les colonisateurs face à la défaite du djihad. C'est parce que le djihad a échoué que le système des confréries est né, dans un souci de coopération, dans un souci de conciliation, dans un souci de négociation. Et le système des confréries a voulu à la fois jouer un rôle de passerelle entre les populations autochtones et le colonisateur étranger.
Professeur Treffel, si en vous écoutant et je vous comprends bien, c'est qu'il y aurait, il y a eu trois temps. Un premier temps d'islamisation pacifique, sans coup férir de par le contact, par le commerce, et qui s'est fait comme ça jusqu'à une période des grands empires. Au-delà de l'empire du Ghana, l'empire du Mali, et là c'était plutôt par la force et par la conquête. Et comme on a vu que ceci menait à des impasses, c'est l'islam dit confrérique qui a repris le dessus, et c'est ce qui caractérise, indépendamment des poches de terrorisme au Sahel maintenant, l'islam dans ces contrées africaines.
C'est tout à fait... Je partage tout à fait ce que vous venez de dire, ce qu'on appelle donc l'islam d'Afrique, l'islam africain, ce qu'on a appelé auparavant l'islam noir. En fait, ce sont des orientalistes, cette expression est très ancienne, hein, elle remonte essentiellement à 1915. Hein, c'était Paul Marty qui avait été chargé par les autorités coloniales à l'époque d'étudier les pratiques de l'islam en milieu africain afin de mieux les connaître. Alors, cette expression d'islam noir a connu une large audience en 1964 à travers la publication de l'ouvrage de Vincent Monteil, qui était un autre orientaliste et qui a intitulé cet ouvrage l'islam noir. Alors la question qui se pose est de savoir si cette notion d'islam noir est légitime ou non, puisque les marabouts... quelquefois, considèrent que parler d'islam noir, c'est une manière de les dévaloriser, de les dévaluer par rapport au vrai islam, qui serait l'islam arabo-musulman. Cet islam noir, cette notion d'islam noir n'est pas toujours bien partagée. Alors, à l'inverse, comme vous l'avez dit c'est la raison pour laquelle nous avons tendance aujourd'hui à parler d'islam ouvert sur le monde, d'islam africain, d'islam, qui soit perméable à l'ensemble des influences qui dont est pénétré le continent africain.
Oui, et c'est curieux cette affaire d'islam noir, parce que l'apologie classique dans la rhétorique islamique, c'est que le tout premier muezzin, Bilal, du temps du prophète, était un homme noir. Et sa propre parole à lui, il n'y a pas de différence entre un blanc et un noir, si ce n'est que par la piété. Bien, c'est vrai que de nos jours, et l'appellation apparemment utilisée, c'est un islam apaisé, un islam africain, un islam d'ouverture sur le monde. Mais qu'est-ce qui justifie cela en dehors de la pétition de principe qui consiste à dire qu'il y a de l'hospitalité, de l'accueil, de la générosité, de l'ouverture, ou est-ce qu'il y a des prédispositions intrinsèques à ces peuples, d'une manière générale, et à ces régions?
J'en vois essentiellement trois. D'une part, la culture traditionnelle africaine, qui est une culture essentiellement animiste, c'est-à-dire qui prend en compte les forces invisibles. Tout être, tout objet, toute plante, tout minéral, tout animal représente, reflète une force invisible qui compose le monde. Donc cette ouverture est une tendance au syncrétisme, est une tendance à l'œcuménisme. Un monde peuplé de forces invisibles est un monde qui accepte la pluralité des interprétations, la pluralité des opinions, la pluralité des religions, la pluralité des discussions. Première chose. Deuxième chose également, si vous me le permettez, je verrai également une certaine forme de rationalisme dans la pensée africaine que l'on a trop tendance à négliger. Je reviendrai à l'islam qui lui aussi, à une période de son histoire, au 9e siècle, a manifesté une ouverture vis-à-vis des autres, essentiellement vis-à-vis de la Grèce, à travers le mouvement des traducteurs, le mouvement de traduction qui a été lancé sous l'égide du calife Al-Mamoun et qui a permis à l'islam de s'ouvrir sur une culture qui lui était différente. Qu'en est-il exactement ? Le mouvement des traductions visait à intégrer le raisonnement grec au sein de la théologie musulmane. Alors qu'on a trop tendance à considérer l'islam comme un tout insécable, qui confond politique, société et religion, qui confond théologie, loi islamique et langage, l'ouverture à la culture grecque à travers ce mouvement de traduction a permis de compléter la parole divine par la parole de sagesse, de compléter la parole coranique par la parole philosophique. Donc, dès les origines, l'islam s'est ouvert à la raison, s'est ouvert au raisonnement à travers la Grèce. Et je dirais que l'Afrique était particulièrement, ne pouvait être que particulièrement ouverte également à ce mouvement, dans la mesure où chez elle aussi, on retrouve des analogies avec la Grèce. Moi, je dis souvent, l'Afrique est la Grèce des temps modernes. Mais Senghor avait déjà perçu la profonde analogie qu'il existait entre les cultures antiques et les cultures noir. Il disait qu'elles baignaient dans la même atmosphère sociale, qu'elles étaient à la même hauteur, à la même couleur, au même rythme. Et il faut savoir que les efforts à partir de cette intuition initiale, à partir de cette perception initiale, les philosophes africains, les philosophes sénégalais ou autres, je pense particulièrement à Alexis Kagame qui a écrit un ouvrage « La pensée bantou-rwandaise de l'être », se sont efforcés d'établir une table de correspondance entre les catégories africaines et les catégories grecques.
D'Aristote.
Les catégories, voilà, entre les catégories. Donc, les catégories théorie d'Aristote existe en Afrique sous des appellations différentes. Bon, on sait qu'il y a 10 catégories d'Aristote, mais Kagame met en évidence 4 catégories des langues africaines et plus particulièrement des langues bantoues, sachant qu'elles sont toutes qualifiées par le suffixe Ntu. Ntu, c'est la force vitale. Ntu, c'est la force cosmique. Et il dit que pour finir, on peut réduire le langage africain à 4 catégories, à la fois le Muntu, qui est la force de l'homme, hein, qui représente l'homme, le Kintu, qui est la force des choses, des animaux, des végétaux, des minéraux, le Hantu, qui sont les catégories de lieu et du temps, et le Kuntu, qui est la catégorie des différentes modalités qui existent, le beau et le laid, le proche et le loin. Et enfin, ces 4 catégories retranscrivent en langage africain les 10 catégories d'Aristote. Pour dire que le vrai débat qui traverse à la fois l'islam, l'antiquité grecque, l'Afrique d'aujourd'hui, est de savoir s'il existe un langage universel. Ou est-ce que nous sommes prisonniers de notre langage? Est-ce que le Coran ne peut être révélé qu'en arabe? Ou est-ce que le Coran peut être traduit en langage universel? C'est la vraie question qui autorise la possibilité de s'approprier par les différents continents, par les différents peuples, le Coran. Existe-t-il un langage universel? Et ça, c'est une question qu'avait posée dès les origines les musulmans à travers ce qu'on appelle essentiellement la controverse de Bagdad. Hein. Peut-on traduire la philosophie grecque en arabe ou chaque langue est-elle prisonnière de sa vision du monde, hein. Est-il possible de communiquer? Est-il possible d'assurer un dialogue entre les différentes cultures? Et je pense que dès l'origine, une certaine branche de l'islam s'est ouverte sur le monde et a autorisé la possibilité d'assurer la révélation, certes dans la langue arabe, mais qui puisse être traduite en plusieurs langues.
Oui, professeur Treffel, je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt et tout ce que vous dites suscite en moi quelques réactions, mais je m'appesantis sur ce dernier point. Vous savez que en langue arabe, le mot arabe veut dire explicite ou éloquent ou manifeste ou clair. Et donc le fait de dire que nous t'avons révélé un Coran en langue arabe, le fait de ne pas traduire arabe par son sens, par son signifiant, qui devrait être nous t'avons révélé un Coran en langue manifeste, en langue claire, en langue éloquente, en langue bien explicite, répondrait à cette idée de ne pas s'enfermer dans la langue arabe comme étant la langue de Dieu, ou Dieu parlerait arabe. Et donc, en principe, si je devais revenir à ce que vous dites, le débat est entre est-ce que sommes-nous prisonniers de nos langues, et ce sont nos langages qui nous impriment une vision du monde, une Weltanschauung, ou est-ce que il y a une approche rationnelle du monde par-delà le langage.
C'est tout à fait la question. C'est tout à fait la question. Hein. C'est donc le débat à travers la controverse de Bagdad qui est opposé Matta et Sirafi.
Matta, on est en 932.
En 932, absolument, en 932. Matta, qui était un logicien assyrien qui souhaitait traduire la philosophie grecque en arabe et qui considérait que le changement de langue n'altérait pas la signification de la raison et la signification du message transmis par la philosophie grecque, et Sirafi, qui était un grammairien musulman, et qui considérait qu'il était impossible de traduire la philosophie grecque, parce que celle-ci était prisonnière du langage grec, était prisonnière des catégories grecques. Et c'est d'ailleurs, cette querelle n'a pas cessé de cheminer à travers les siècles. En 1950, Benveniste, un des linguistes les plus réputés et les plus contemporains, a écrit un article catégorique grec et catégories de pensée pour dire que pour finir les catégories grecques d'Aristote étaient la propriété du langage grec et du langage de l'Antiquité. Salia!
France Culture, dans l'émission Questions d'Islam, avec le professeur Frédéric Treffel, professeur associé en philosophie et en sciences politiques à l'Université Paris-Seine, et surtout professeur invité à l'Université Cheikh Anta Diop à Dakar, au Sénégal, pour parler de l'islam africain, de l'islam en Afrique, de l'islam d'ouverture. Et vous pensez, monsieur le professeur, que la sortie de crise dans le monde islamique viendrait d'Afrique, du continent africain, parce qu'il y a des potentialités humaines, des ressources sur le sol et sous le sol, mais surtout des ressources intellectuelles et une vision du monde qui répondrait aux demandes et aux exigences de notre contemporanéité.
Absolument. Tout d'abord, l'Afrique contient d'immenses ressources. La première de ces ressources, que vous avez à juste titre souligné, ce sont les ressources humaines. Un Afrique qui comprend aujourd'hui 1 milliard d'habitants, qui d'ici 30 ans aura doublé sa population et en comprendra 2, et qui en 2100 aura quadruplé sa population.
Dont la moitié est toujours composée de musulmans.
Dont 4 milliards d'habitants en 2100, dont la moitié sera également composée de musulmans. Et surtout, dont les 3/4 ont moins de 25 ans. Premier potentiel, premier enjeu, l'éducation, la formation de la jeunesse. Deuxième enjeu, la croissance que connaît le continent africain. Il est devenu banal, courant, de dire, de signifier que depuis une dizaine d'années, la croissance économique des pays africains est une des plus élevées du monde. Elle s'élève aujourd'hui à 6 à 7%. Le continent africain fait l'objet de convoitises de l'ensemble des continents de la planète, des États-Unis, de la Chine, de l'Europe, mais également de ce qu'on appelle les puissances émergentes, le Brésil, la Russie, l'Inde. Au niveau religieux, mais également économique, l'Afrique fait l'objet de rivalités entre différentes puissances musulmanes. Je parle de l'Iran et de l'Arabie saoudite.
C'est-à-dire que ça se prolonge sur le continent africain, les rivalités véhémentes entre le régime iranien de tendance et de confession chiite et le régime saoudien de confession sunnite.
Absolument, absolument, absolument. Et je dirais même, mais là, si l'on prend également l'exemple du Sénégal, non seulement vous avez une rivalité entre le mouvement chiite et le mouvement sunnite, mais vous avez également une rivalité entre le mouvement chiite, le mouvement sunnite et le mouvement sunnite confrérique. Hein ? Autrement dit, vous avez un certain nombre de mouvements, sans succès jusqu'ici, à caractère réformiste ou fondamentaliste, qui se sont efforcés de mettre à bas le système des confréries. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé au Sénégal.
Vous m'aviez dit en début d'émission que ce système confrérique se maintient à l'aise et d'une manière apaisée et résiste aux offensives fondamentalistes.
Il résiste parfaitement parce qu'il correspond parfaitement à la culture sénégalaise, hein, qui est faite, je le dis, d'harmonie, de vivre ensemble et qui vise à assurer le bien-être à la fois matériel et spirituel des individus. Une des particularités, puisque l'on parle de croissance économique du système confrérique, c'est vraiment d'irriguer, d'inonder non seulement le système d'enseignement, non seulement le système d'éducation, mais également le système économique, commercial, agricole. On retrouve ce système confrérique non seulement dans la formation et dans l'éducation de la jeunesse, mais aussi au niveau économique, dans les exploitations agricoles, dans le bâtiment, dans les transports. Et le système confrérique irrigue jusque à travers le monde, à travers la diaspora. Donc c'est un système qui est extrêmement bien implanté et qui répond également non seulement à des objectifs culturels, économiques et commerciaux, mais peut-être également à une philosophie et à une vision du monde qu'a bien représenté un théologien musulman, indien, Mohamed Iqbal, qui, à travers son œuvre, indique que l'islam n'est pas quelque chose de figé, de fermé, d'originel, mais a l'obligation de s'ouvrir aux défis du temps présent, de s'adapter aux défis économiques et commerciaux du temps présent, d'être toujours en mouvement, de s'interroger, de se questionner, afin de favoriser non seulement la recherche spirituelle, mais aussi le développement économique, commercial et culturel des musulmans.
Professeur Treffel, je voudrais revenir à ce que vous aviez dit tout à l'heure sur deux points. Le premier, c'est que dans cet islam africain, un islam d'ouverture, si on lui accole toujours cette épithète d'être islam ouvert, il y a d'abord une approche œcuménique, une approche irénique. Dans l'enseignement même, il m'est revenu une fois l'idée que Cheikh Ampateba avait dit à quelqu'un « Marche doucement et lève le pied parce que sur une pierre, tu as les trois règnes, le règne minéral, le règne végétal et le règne animal. Il y a à la fois la pierre elle-même, il y a aussi une brindille d'herbe et il y a une fourmi. Donc il faut que tu saches que tu es entouré dans cet univers de ces règnes-là et que tu respectes. Et le second point est inhérent aussi à la conception du monde et que le logos grec et ces antiquités-là, en leur pendant dans la pensée, dans la vision du monde africaine, très peu méconnue de nous autres occidentaux, et que c'est le fait de mettre ça en avant qui doit être, qui peut être une manière de sortir de la crise qui traverse le monde islamique, pour peu qu'on y renoue, comme on l'avait fait, c'est pour ça que vous avez cité l'exemple du calife Al-Mamoun, de ce qui se passait à Bagdad avec la maison de la sagesse.
C'est tout à fait ça. Je pense qu'il y a la notion d'harmonie cosmique avec le monde qui nous entoure. Il y a une notion très écologique, donc. Respecter l'environnement, respecter les animaux, respecter les végétaux, respecter la nature. Première notion. Deuxième notion, la nécessité de prendre en compte les quatre dimensions qui font un monde. Les mortels, les dieux, le ciel et la terre. Et enfin, puis pour donner cette notion d'avenir, et vous avez justement et de manière fort appropriée utilisé le terme de nouer, la fonction de tissage, enfin, s'efforcer que l'économie ne soit pas débridée comme celle que nous connaissons dans les pays occidentaux, que l'économie soit au service de l'homme, que l'économie soit au service de la planète, que l'économie soit au service de la nature. C'est ce qu'on appelle, puisque je suis ancien délégué interministériel à l'éducation et au développement durable, c'est ce qu'on appelle le développement durable.
Oui. Frédéric Treffel, est-ce qu'on peut ajouter encore une dimension de dialogue interreligieux qu'on ne voit pas ailleurs ou peu, ou qui est un peu chaotique en dépit de toutes les bonnes volontés, alors qu'en Afrique, elle se vit, cette notion, et elle est inhérente à la vie de tous les jours, notamment entre chrétiens et musulmans, par-delà les appartenances confessionnelles.
Alors, cette notion de dialogue interreligieux est très prégnante en Afrique et en particulier au Sénégal, bien qu'au Sénégal, 95% de la population est musulmane et 5% chrétienne. Mais vous savez que le Sénégal faisait partie du même ensemble auparavant de la Guinée, et que vous avez beaucoup de chrétiens en Guinée, donc les religions traversent les frontières. Vous avez également beaucoup de chrétiens en Casamance, et puisque nous allons bientôt célébrer le Ramadan, il faut savoir que les chrétiens sont souvent toujours invités à la rupture du jeûne par les musulmans, et que les chrétiens et les musulmans dans les mêmes familles cohabitent de manière extrêmement harmonieuse et de manière extrêmement attentive les uns aux autres. Au-delà, effectivement, de la différence de religion, bon, chacun sait que chrétiens, musulmans, juifs, nous prions le même Dieu, mais il faut reconnaître que les Africains ont cette capacité de perception, ont cette capacité de perméabilité qui leur permet d'être réceptifs à toutes les influences et à tous les vents et de faire la synthèse. On dit que bon, Senghor était un chrétien, là, le président fondateur du Sénégal en 1960. Était un chrétien, mais sa mère était musulmane. Musulman ou chrétien, je crois que c'est la propriété, la capacité spécifique, particulière des Africains d'être capable d'assurer la cohabitation, la collaboration, la compréhension entre ces différentes religions.
Alors, est-ce que, dans ce cas, Frédéric Treffel, les convulsions paroxystiques du terrorisme dans le Sahel est conjoncturelle et circonstancielle, pour X raisons, dues à la pauvreté, à la manque d'éducation, ou c'est quelque chose qui est allogène, qui est venu d'un peu plus du nord, eu égard à la déstabilisation de la Libye? Comment expliquez-vous ces comportements qui ont fait en sorte qu'on a détruit des manuscrits, des lieux, des hauts lieux de la culture et de la connaissance et de l'histoire africaine?
Oui. Il n'y aura pas de victoire sur le terrorisme sans développement, et il n'y aura pas non plus de développement sans victoire sur le terrorisme. Ce sont deux combats conjoints qui sont entremêlés et qui s'impliquent mutuellement et réciproquement. Il est certain que l'engagement, l'embricanement, la radicalisation des jeunes Africains tient pour une grande part à des raisons économiques. On citerait, par exemple, la dévaluation du franc CFA, la dégradation des termes de l'échange, la sécheresse climatique, l'augmentation des prix. Nous connaissons en Europe une crise exceptionnelle depuis 2008. Il faut savoir que cette crise est amplifiée à une puissance 10 hein, par le continent africain. Sachant que nous avons un pouvoir d'achat qui est supérieur à 10 à celui du continent africain, et quand nous avons une crise, elle est également amplifiée par 10 par le continent africain. Donc tous ces éléments, cet appauvrissement, il faut le reconnaître, hein, cet appauvrissement du continent africain depuis un certain nombre d'années, a conduit les jeunes à une certaine forme d'embrigadement dans des mouvements à caractère extrémiste, terroriste, radicaux, qui, il faut le souhaiter, seront appelés à être éradiqués, mais non seulement par la lutte armée, mais encore aussi et surtout par le développement.
Oui, et donc c'est plus qu'un souhait, mais c'est une œuvre gigantesque, titanesque, colossale, mais à entreprendre.
À entreprendre, et tous les responsables politiques sont conscients de cet enjeu. Je rappellerai que le sommet Afrique-France qui s'est tenu à Bamako, au Mali, les 13 et 14 janvier 2017, porté sur le thème partenariat, paix, émergence. Et si on peut offrir quelques pistes pour assurer ce développement, puisque je suis universitaire, en ce qui me concerne, je pense que les nouvelles technologies, que tout ce qui a trait au digital, au numérique, est appelé à jouer un grand rôle dans le développement de l'Afrique. Je dis souvent dans les années 90 que les Chinois n'ont jamais connu le téléphone filaire. Le téléphone ancien, ils sont passés directement au téléphone mobile. Aujourd'hui, 70% des Africains utilisent le mobile. Internet s'est développé à une vitesse considérable depuis 10 ans. Donc l'ensemble de ces nouvelles technologies doivent permettre au continent africain d'assurer un saut technologique permettant d'assurer son développement et son expansion. L'informatique, les nouvelles technologies, c'est pas une question de culture. Vous n'avez pas besoin d'avoir lu La Princesse de Clèves pour être un passionné de nouvelles technologies. Donc, aujourd'hui, l'accent est mis dans un certain nombre de pays sur la création d'universités numériques, sur la création de campus à caractère digital permettant de mettre en relation les entreprises et les compétences numériques, les compétences en matière de nouvelles technologies, afin de favoriser ce développement.
Oui, ça c'est l'aspect développement économique, développement technologique, et c'est une nécessité absolue, incontournable, bien entendu. Mais ce qui m'avait semblé être de la plus haute importance aussi, c'est un aspect idéal et intellectuel. Vous dites, Frédéric Treffel, que la vision du monde des Africains n'est pas exclusivement celle héritée de l'Occident, une approche un peu rationnelle ou rationaliste des choses. Il y a tout ce qui relève à la fois de la langue, des langues africaines, et pour ce qui concerne les musulmans africains, c'est aussi un héritage qu'il faut redécouvrir de l'audace intellectuelle des premiers musulmans ou des musulmans de l'ère abbasside.
C'est tout à fait ça. Hein. Et je pense que c'est ce qu'efforce de faire un théologien tel que Mohamed Iqbal, d'insister sur la notion de liberté, de création, d'élan. Hein. L'islam n'est pas seulement la religion de la soumission, mais elle est aussi et surtout peut-être la religion de la création.
Enfin, en réalité, le mot islam ne veut pas dire soumission comme on le fait croire ou d'une manière incongrue et non tout à fait injuste de l'étymologie même du mot. C'est une déprise de soi pour une remise de soi confiante et dans la paix. C'est un abandon paisible, une allégeance voulue comme telle. Ce n'est pas une résignation maladive, morose, fataliste, comme certains y pensent. je le dis, pardonnez-moi de vous avoir interrompu, parce qu'on pense que parce que ce sont des Africains, il y a ce fameux Mektoub, donc c'est écrit, et on subit le fatum. Mahomet, un homme qui faisait horreur à Leibniz.
Oui. Ce qui est vrai, en Afrique en particulier, il y a une certaine forme d'inertie, hein, il faut le dire, même si ce n'est pas nécessairement correct, qui tient à la pression du groupe, de la communauté, de la famille, de l'ethnie, qui empêche peut-être d'atteindre ce travail de soi sur soi, cette liberté, cette recherche de soi, non seulement de manière spirituelle, mais aussi de manière plus concrète, plus matérielle, économique et commerciale. Donc, l'intérêt est peut-être de favoriser cette éducation à la liberté, à l'esprit critique, à la raison, qui, tout en respectant la religion islamique, les ancêtres en ce qui concerne les Africains, puissent favoriser ce développement qui, je le dis et je le redis, repose essentiellement sur la notion d'élan vital, de force vitale, d'accroissement de soi à travers aussi bien les puissances spirituelles que les contraintes économiques et commerciales.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons de l'islam en Afrique, de l'islam africain, avec cette spécificité qui, selon le professeur Frédéric Treffel, est un islam d'ouverture ou un islam ouvert. Ce sont les qualificatifs qui viennent être accolés au mot islam en Afrique. Le professeur Frédéric Treffel est un professeur associé en philosophie et en sciences politiques à l'université Paris-Seine, professeur invité aussi à l'université Cheikh Anta Diop à Dakar, au Sénégal. Et vous étiez en train de dire, Frédéric Treffel, que ce qui est important, c'est de sortir de la pression communautaire. Donc, là, on est devant un problème qui caractérise d'une manière générale les sociétés majoritairement musulmanes, qui est l'autonomie du sujet. Comment faire pour que le sujet humain puisse s'émanciper de cette forte pression communautaire, d'une part, et puis aussi l'autonomie du champ de l'acquisition du savoir et de la connaissance par rapport à la révélation coranique. Vous pensez que cela sera possible dans les contextes africains où c'est une difficulté majeure auxquelles les sociétés majoritairement musulmanes sont confrontées et qu'il faut passer par l'Occident, par l'islam européen, par exemple?
Moi, je pense que l'Europe et que l'Occident n'a pas de leçon à donner à l'Afrique. L'avenir de l'Afrique est aux mains des Africains. Je reprendrai toujours à nouveau une leçon de Mohamed Iqbal qui constatait, tout en le déplorant, ce qu'il appelait le désenchantement du monde.
Oui. Donc, il était l'ami de Bergson et on est à une période effectivement du désenchantement du monde avec Max Weber, etc. N'oublions pas qu'Iqbal est mort en 1938.
Absolument, absolument. Et vous avez raison de souligner que le désenchantement du monde est une expression de Max Weber, qui a été reprise récemment par Marcel Gauchet pour souligner que nous vivons la sortie des religions. Or ça, je ne le pense pas. Je pense que la transcendance, le théologique, est une nécessité et répond à un besoin de l'homme, qu'il habite au nord ou au sud. Cependant, il est possible de conjuguer à la fois le théologique et le politique, à la fois le transcendant et l'immanent.
En les désintriquant ou en les...
En les désintriquant et en les articulant. En conjuguant la raison et la foi. En conjuguant la morale et la science. En conjuguant le savoir et la révélation. Donc, ils ne sont pas incompatibles, ils ne sont pas contradictoires. Il faut simplement reconnaître la part de l'un et de l'autre. La part de l'un, c'est l'inscription de l'infini dans le fini. C'est l'amour, c'est la dimension religieuse de nos vies. La part de l'autre, c'est le calcul, c'est le profit, c'est la rentabilité. Ce sont deux dimensions de l'existence humaine, mais qu'il convient d'articuler à travers l'harmonie et à travers une approche raisonnable et aimante de l'un et de l'autre.
Ça, c'est très bien de vous l'entendre dire, comme ça, ça apportera une pièce au dossier, au débat. Il y a ceux qui disent que finalement, dans sa longue et lente maturation, l'humanité finira par s'affranchir du théologique, parce que avec le progrès, avec la science, on se rendra compte que parler du divin relève de quelques billevesées, et d'autres qui disent qu'il y a l'invariant besoin de transcendance. Et donc, vous faites partie plutôt de ceux qui disent que c'est indépassable.
Je pense que la transcendance est indépassable, le dépassement de soi est indépassable. L'homme est fini, par définition, il a besoin d'une puissance infinie. Hein, hein, c'est la nature humaine, si vous voulez. Hein, quelle que soit la religion, quelle que soit la manière qu'on appelle cette forme de transcendance, même en Europe, si vous voulez, même si nous connaissons un oubli du théologico-politique, tous les principes sur lesquels nous vivons depuis la Révolution française, qu'il s'agisse du contrat qui se réfère à l'alliance entre le peuple et Dieu, qu'il s'agisse des droits de l'homme qui sont déjà inscrits dans les Écritures saintes et dans la Bible, toutes ces notions que l'on croit sécularisées ou laïques ont une origine religieuse.
Alors que répondez-vous, professeur Treffel, à ceux qui disent que c'est un acquis de la modernité que de considérer que la cité doit être gouvernée selon des règles et des lois comme une émanation rationnelle des hommes qui s'applique aux hommes pour le bien-être des hommes et que de ce point de vue-là, l'association politique est autofondatrice de sa propre légitimité et qu'elle n'a pas besoin d'être arrimée à quelconque principe transcendant qui la consacre.
Oui, je réponds simplement ils oublient leur origine, ils oublient les normes fondamentales qui sont inscrites dans les trois religions, ils oublient la règle de droit, ils oublient qui les dépasse, qui est antérieur à eux. La règle de droit ne fait que traduire, expliciter, développer des valeurs universelles qui sont inscrites dans les trois religions et qui en ont paix, solidarité, égalité, fraternité.
Bien. Mais encore une fois, professeur Treffel, et à ceux qui disent que oui, mais cela va donner lieu dans cette collusion du politique et du religieux. Vous, j'ai entendu que vous avez dit qu'il faut les articuler, le théologique et le politique. Il n'y a pas de collusion entre le religieux et le politique. Il va y avoir des dérives de la part de ceux qui prétendent avoir pénétré le désir politique de Dieu et de l'imposer à leurs semblables parce qu'ils sont seuls à avoir scruté cette volonté divine pour imposer sa manière de voir et ce droit qui émane de la révélation ou d'un quelconque droit naturel.
D'où l'utilité de la philosophie grecque en particulier, et de la philosophie en général, qui nous permet d'avoir une approche rationnelle, logique, universelle, de l'ensemble de ces problèmes et de ces difficultés. La philosophie et la révélation ne sont pas incompatibles, ils sont complémentaires. C'est un travail d'interprétation, c'est un travail d'adaptation, c'est un travail de réflexion, de méditation, nous permettant de surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés. Je me permettrai d'ajouter, si pour revenir à l'islam africain et à la spécificité et à la particularité de cet islam, que ce qui m'a moi particulièrement touché dans la pratique de cet islam, ou tout simplement dans leur manière de vivre, de sentir, de penser et d'agir, ces trois termes. Dans l'ouvrage La tentation de l'Afrique, qui vient d'être publié aux éditions Honoré Champion, je m'efforce de définir l'Afrique par trois éléments. À la fois la force vitale, comme on vient de le dire, la dimension animiste, la force démographique, à la fois la palabre, la force de la parole, la capacité de dire le fond caché des choses. Ça, c'est la religion. Chacun peut s'y retrouver, que nous soyons chrétiens, musulmans ou juifs. Et enfin, et surtout, la notion de rythme, la notion esthétique, la notion de chant, la notion de musique, qui est peut-être ce qui touche au plus profond les cœurs. Autant que les disciplines les plus fondamentales. Donc, si nous réapprenions en Europe, peut-être à la fois cette capacité, cette intensité de vie, à la fois cette capacité de dire les choses au plus profond de nous-mêmes, et cette dimension esthétique, cet appel au goût, cet appel à la beauté, peut-être préparions-nous un monde meilleur, plus beau et plus utile.
Merci infiniment, monsieur le professeur. À titre personnel, je suis sensible à ce triptyque, la force vitale, l'intensité de vie, la palabre pour dire le fond des choses et faire une réelle sagesse, et puis le goût de l'esthétique et de la beauté, du rythme, de la cadence, de la musique et des belles lettres, des beaux-arts. C'est avec ces paroles-là que nous arrivons au terme de notre émission. Merci de nous avoir édifiés à propos de l'islam africain et de l'islam en Afrique. Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Daphné Abkral. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Antoine Espel et la réalisation est assumée par l'ami Rafik Zénine.